qu'est-ce qu'elle va faire avec la peur?
C'est pas un sujet hors du contexte du champ politique.
Est complètement tombé en miettes.
Et quelque chose, à mon avis, a changé.
Elle révélait des inégalités profondes. Cette conversation mondiale.
La parole appartient à moitié à celui qui l'a dit, moitié à celui qui l'écoute.
Pense-t-on à soi ou pense-t-on aux autres?
On ne connaît la santé que par la maladie.
Beaucoup de contradictions et de conflits.
Pause et réfléchir.
Bonsoir, entrons ensemble dans un temps du débat du vendredi, une conversation mondiale entre deux intellectuels, deux écrivains sur la crise que nous sommes en train de traverser. À l'ordre du jour ce soir, la Covid a-t-elle cassé l'ambiance? Il y a un peu plus de 6 mois, l'écrivaine Cristina Comencini avertissait ses amis français par l'intermédiaire d'un très beau texte écrit depuis Rome pour le quotidien Libération. Elle y décrivait ce qu'était le confinement et l'ambiance dans laquelle vivaient les Italiens. Nous lui avons demandé de dialoguer aujourd'hui avec un autre écrivain, également philosophe, Bruce Bégout. Il vient tout juste de publier dans la collection philosophique du Seuil un livre consacré au concept d'ambiance. L'une à Rome, l'autre à Bordeaux vont discuter à distance de ce climat si particulier dans lequel nous nous trouvons actuellement empêtrés et qui affecte nos émotions, celui d'une pandémie qui ne semble pas connaître de répit. Cristina Comencini, bonsoir.
Bonsoir.
Bruce Bégout, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous de deux endroits très différents l'un de l'autre. Vous êtes dans les studios de France Bleu qui vous accueille à Bordeaux, Bruce Bégout. Et puis pour votre part, vous êtes à Rome, comme la dernière fois où nous nous sommes parlé pour le temps du débat. Cristina Comencini, vous étiez celle qui nous a donné envie et l'idée même de créer cette conversation mondiale à laquelle vous reparticipez à nouveau. C'est un peu plus de 6 mois plus tard et vous avez eu la gentillesse de nous fournir un très beau texte que nous avons publié sur le site de France Culture à la page de la conversation mondiale qui reprend justement le premier texte que vous aviez confié à Libération et qui s'appelait « Chers cousins français ». Mais évidemment, entre le 12 mars et maintenant, il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts, Cristina Comencini.
Oui, mais la situation n'a pas totalement changé dans le sens que elle s'est inversée, c'est-à-dire que avant c'était l'Italie qui était vue par les Français et par le reste d'Europe aussi comme le pays le plus contagieux d'Europe,
oui.
Et où il y avait beaucoup de morts, faut dire c'est la vérité. Maintenant, on regarde la France comme un pays qui a beaucoup de contages, on espère que ça va s'arrêter, disons. Mais on est en même temps, comme je dis dans l'article, et un peu c'est l'idée aussi du livre de Bégout qui est très en, dans l'actualité, je trouve. C'est aussi la même ambiance, c'est-à-dire que on est dans une ambiance qui est commune, et c'est ça que je voulais dire avec mon premier article. Et c'est ça que je répète un peu dans le deuxième aussi.
Oui, alors dans le premier article, vous nous avertissiez en tant que Français de ce qui risquait de nous arriver. Ça nous est arrivé effectivement, ce qu'était véritablement le confinement. C'était donc le 12 mars. Vous nous expliquiez effectivement qu'à un moment, on faisait frénétiquement le ménage dans les maisons. On nettoyait le frigo, on mettait en ordre les livres et puis on faisait une pause. On remarquait que dans la cour, le cerisier était en fleurs et qu'on restait une demi-heure à le regarder. On avait l'impression qu'on ne l'avait jamais vu. Ça, c'était au printemps dernier. Voilà que l'automne arrive. Et c'est autre chose, mais toujours avec cette capacité que vous avez, Cristina Comencini, en tant qu'écrivaine, à nous décrire, justement, à nous dire les ambiances. Certains jours, on oublie tout et on sort tranquillement en oubliant le masque, dites-vous, dans le texte que vous nous avez confié. On s'arrête devant une pharmacie et on se demande comment faire pour entrer en acheter un, le visage découvert. Avec les masques, la beauté singulière de chacun disparaît et réapparaît différemment, dites-vous. Et vous nous décrivez, justement, cette ambiance d'enfants en poussette qui se demandent pourquoi, enfin plutôt les plus grands se demandent pourquoi ceux qui sont en poussette ont le droit de ne pas avoir de masque tandis qu'eux en sont affublés, Cristina Comencini.
D'un côté, on regarde les choses qu'on fait comme si elles étaient toujours là, c'est-à-dire que le masque est devenu la marque de cette ambiance, de cette vie qu'on fait maintenant, et en même temps, on essaie de faire comme si c'était normal.
Mmh.
Et de temps en temps, au contraire, ce n'est pas du tout, par exemple pour les jeunes. Nous, on le met parce qu'on nous dit de le mettre, et en même temps, ça fait comme une sensation d'incertitude, je trouve. C'est-à-dire qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, et on essaye de faire semblant. En même temps, toutes les valeurs d'avant, celles qui étaient être ensemble, s'embrasser, voyager, se toucher, parler, sont devenues des choses dangereuses. Et ça, c'est incroyable parce que c'est un renversement total. Même le travail n'est plus fait comme... maintenant, la radio, on est comme ça, comme vous l'avez dit, non? Mais en même temps, il y a des valeurs nouvelles qui créent cette ambiance nouvelle qui est... le fait qu'on sent qu'on est tous comme dans la même air, qu'il y a quelque chose qui nous réunit tous. Moi, j'ai cité la Saint-Patrie, qui est un concept assez incroyable appliqué aux animaux, c'est-à-dire les espèces différentes qui vivent dans un milieu commun. Et voilà, ça, c'est une valeur peut-être de la nouvelle ambiance.
Oui, la Saint-Patrie. Eh bien, vous êtes, vous, philosophe et écrivain. C'est très important que de le dire, Bruce Bégout. Le livre que vous venez de publier dans l'ordre philosophique au Seuil est un livre purement de philosophie, le concept d'ambiance. Mais vous avez aussi une double casquette d'écrivain comme Christina Comencini. Et donc, vous pouvez peut-être nous dire comment vous avez abordé d'un côté l'ambiance comme écrivain et comment vous l'abordez en tant que philosophe, puisque c'est un concept que vous essayez de déterminer en tant que philosophe, essayer de comprendre comment saisir la question de l'ambiance qui est au cœur de notre discussion aujourd'hui.
Oui, alors écoutez, c'est une question vaste. C'est vrai que dans les travaux de fiction, je n'employais pas directement ce terme d'ambiance et je n'étais peut-être pas forcément conscient de travailler avec des ambiances. Au fond, l'écriture, il suffit de 2-3 mots, d'une évocation d'un lieu. Songeons à Proust et son usage des noms de lieux pour déjà, au fond, produire une ambiance. Le langage, au fond, a cette capacité de suggestion. Le travail philosophique, c'était un peu différent parce que justement... Je m'étais aperçu que beaucoup de gens employaient ce terme et sans vraiment réfléchir sur à la fois son origine historique et puis aussi sur au fond ce qu'il voulait dire fondamentalement et ce qu'il impliquait dans notre rapport à nous-mêmes, au monde, aux autres. Donc ça a été un peu deux travaux différents. Mais je pense que ce que j'ai écrit philosophiquement sur l'ambiance, qui d'ailleurs se nourrit beaucoup de textes d'écrivains dans le livre, bien je sûr. Cite beaucoup Thomas Mann, Proust, Julien Gracq. Bien évidemment, l'écriture notamment romanesque ou même poétique, hein, si on songe à Verlaine, etc. Enfin, Verlaine, vous voyez, c'est souvent des poèmes très courts, nous introduisent dans une ambiance qui est rarement celle que on a l'habitude de vivre. Je dirais que c'est deux choses différentes. C'est-à-dire que bon, le travail d'écriture, c'est comment par le biais du style, du choix des mots, etc., de suggérer des images, de suggérer des idées, des sensations, et sans doute qu'il y a, je dirais, un pouvoir atmosphérique du langage, même un mot déjà. Vous voyez, par exemple, là vous me disiez que Madame Comencini était à Rome. Déjà, simplement pour moi, le mot de Rome me suggère voilà des images, une ambiance, une atmosphère, etc. Donc, bien évidemment, le langage a ce pouvoir-là, oui.
Oui, d'ailleurs, vous avez en tant qu'écrivain, publié une fiction qui s'appelait « On ne dormira jamais », qui se passait dans une boîte de nuit ouverte dans une morgue pendant une épidémie. Et on pourrait presque se dire que là, il y avait quelque chose d'autre qui nous dit qu'en tant qu'écrivain, Bruce Bégout, vous avez pensé quelque chose qui, dans l'ambiance d'aujourd'hui, nous parle considérablement. C'était publié il y a 3 ans chez Alia.
Oui, alors il faut dire que notre époque n'est pas avare en catastrophes de tout genre. La maire d'Aix-en-Provence disait face aux nouvelles mesures concernant la ville d'Aix et de Marseille que le ministre de la Santé crée un climat anxiogène. Je veux dire, le climat anxiogène, je veux dire, ça fait depuis quand même un certain temps que nous vivons dedans. Donc, il n'était pas très difficile d'imaginer qu'il pourrait y avoir comme ça un virus qui dans le roman s'appelait le mal jaune et qui crée cette atmosphère de panique, de menace. Puis on a connu d'autres épidémies.
Bien sûr.
La mémoire de la peste, etc. Donc l'écriture a toujours travaillé avec, au fond, ces ambiances un peu de panique généralisée. Là, ce qui est peut-être un peu différent, c'est qu'elle est mondiale. Donc peut-être on a une sorte d'atmosphère de panique mondiale, ce qui est un peu nouveau par rapport à ce que nous avions connu précédemment.
Et puis aussi, Christina Comencini, vous y insistez dans le texte « Essayons de vivre ». vivre dans la même atmosphère que vous nous avez confiée pour la conversation mondiale. Ce qui est tout à fait étrange, c'est comment eh bien, les structures sociales sont bouleversées par une épidémie comme celle-ci et comment, par exemple, dans des villes ou même dans des familles, les plus jeunes, et vous y insistez aussi, eh bien, sont regardés ou pointés du doigt au prétexte qu'ils vont dans les cafés, qu'ils sont donc dangereux pour les plus âgés. Ce qui est quand même quelque chose de tout à fait particulier et qui rompt beaucoup avec les sociétés d'avant.
Mais je pense, imaginons d'être très jeune aujourd'hui ou être enfant aujourd'hui, eh bien c'est pas facile parce que la jeunesse se nourrit de la convivialité, de la fête, de l'amour, de se toucher, de s'embrasser. Et tout ça est aujourd'hui difficile. Je pense que d'un côté, évidemment, ils doivent le faire, mais il faut quand même comprendre qu'il faudrait donner des informations aux jeunes un peu plus appliquées et juste pour leur âge, leur faire comprendre, mais en même temps les comprendre. Par rapport à l'écriture et l'ambiance, je pense que les écrivains, quand ils ont une ambiance dans leur tête, dans leur cœur, ils écrivent et ils décrivent des ambiances et des fois, ils prévoient des choses qui arriveront après. Donc c'est drôle parce que d'un côté, l'ambiance, c'est ce qu'on a autour, c'est une sorte, comme le dit Bégou dans le livre, c'est une sorte de normalité qu'on regarde même plus, comme les poissons, on nage dans les ambiances. Et en même temps, quand on écrit, on recrée des autres ambiances qui sont un peu, à mon avis, et je suis d'accord avec lui, le sens même du livre. C'est-à-dire, c'est le monde qui a cette espèce de substance et qui entoure les personnages. Et des fois, on se rappelle pas des sujets et des histoires, mais on se rappelle l'ambiance d'un livre.
Et oui, et d'ailleurs, c'est ce que vous tentez de faire dans le concept d'ambiance, dans votre livre À l'ordre philosophique, Bruce Bégou, c'est de se dire, ben voilà quelque chose qui est flou, qui est vague, qui nous entoure, l'ambiance, justement, qui change. Une ambiance peut-être sécuritaire à un moment et devenir douce à un autre moment, parce qu'elle est liée aussi à notre question des émotions, notre gestion des émotions. Et moi, en tant que philosophe, dites-vous, Bruce Bégou, je vais tenter de comprendre ce qu'il y a entre les êtres et les choses et qu'est-ce que c'est que cette ambiance qui nous entoure et que nous avons tant de mal à définir philosophiquement.
Oui, c'est un peu comme ce que saint Augustin disait du temps. Hein. Si on ne me demande pas ce qu'est le temps, je le sais. Et puis si on m'interroge pour savoir ce qu'est le temps, ben j'éprouve des difficultés, un embarras. Ben l'ambiance, c'est un peu le même type de phénomène. Enfin, quand on est dans l'ambiance, on la comprend, on est immergé en elle et au fond, on saisit quelle est l'ambiance. Hein. L'ambiance sérieuse, hostile, menaçante, joyeuse, etc. Par contre, quand il faut, en prenant du recul, essayer de la définir, là, c'est très difficile. Et le livre essaie, au fond, comme ça, de donner des outils conceptuels pour essayer de penser l'ambiance. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'en français, le terme d'ambiance est une invention d'écrivain. C'est un terme qui est assez récent, qui date de la fin du 19e siècle. Et bon, les linguistes s'opposent un peu, mais disons qu'on est à peu près sûr que c'est soit Villiers de l'Isle-d'Adam, soit les frères Goncourt qui ont inventé ce terme d'ambiance. Mmh. Le terme d'environnement n'était pas encore commun pour la langue française. Le terme de milieu faisait trop scientifique. Et donc, ils ont inventé ce néologisme pour dire, oh, voilà, nous sommes entourés par des choses impalpables, aériennes, évanescentes, mais qui pour autant nous déterminent le climat affectif dans lequel nous sommes et qui ont une certaine influence et qui, au fond, sont intéressantes à noter et peut-être à analyser. Et bien évidemment, l'ambiance ou les ambiances dans lesquelles nous sommes, en cette rentrée ou même depuis longtemps.
Vous les qualifieriez comment, d'ailleurs, ces ambiances d'aujourd'hui lourdes, pourries? Qu'est-ce qu'on pourrait en dire s'il fallait lui mettre un adjectif à cette ambiance?
Mais ce qui est déjà étonnant, c'est que l'ambiance, par rapport au virus que nous connaissons, elle a un peu le même mode de diffusion. C'est-à-dire qu'elle est invisible, aérienne, contagieuse, etc. Donc au fond, le virus et l'ambiance s'expriment un peu de la même manière. Enfin, c'est un peu le même être. Après, l'ambiance dans ce climat de pandémie mondiale, bien évidemment, est une ambiance plutôt angoissée, soucieuse, inquiétante. Enfin, ça dépend les degrés de crainte, etc. Bizarre parfois aussi quand il y a ce mélange entre le retour à une vie normale puis des mesures qui font que on voit bien le masque, c'est tout à fait ça. C'est à la fois on essaie de maintenir une vie normale et en même temps on a un nouvel objet qui crée quelque chose de bizarre. Et donc, on a effectivement cette incertitude, cet entre-deux qui crée effectivement une ambiance, on pourrait dire, oui, le terme de bizarre, étrange. Cet étrange peut aller parfois vers le cocasse, peut aller vers l'inquiétant, etc. Donc, vous savez, les ambiances aussi, elles sont très volatiles.
Fugaces.
Fugaces, donc elles évoluent, etc. Alors, y a-t-il une ambiance mondiale actuelle, vous voyez, de cette Saint-Patrie dont parlait Madame Comencini? Bon, c'est oui, sans doute, il y a quand même une tonalité plutôt négative, hein, mais qui n'est, à mon sens, qui existait même avant, quand même, avant la pandémie, avec la question du réchauffement climatique, avec les questions de géopolitique, avec d'autres questions. Enfin, le climat déjà n'était pas tout à fait un climat mondialement serein et apaisé, vous voyez. Donc,
Et Christina Comencini, même question qu'à Bruce Bégout, vous la qualifieriez comment cette ambiance? Parce que dans votre texte, essayons de vivre dans la même atmosphère qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, vous dites par exemple, quand vous parlez des jeunes qui portent les masques autour du bras, sur le coude, comme un bracelet d'esclave. Donc on se dit, voilà, ça c'est une façon de décrire l'ambiance. Est-ce que le masque porté autour du coude, c'est un bracelet d'esclave? Ce qui voudrait dire que par ailleurs, nous sommes esclaves de ce virus.
Oui, c'est vrai. J'ai essayé de décrire l'ambiance dans le virus comme une ambiance qui essaye vraiment de vivre une vie normale. Chacun de nous, il y a un déni, hein, très fort, parce que, mais c'est, en même temps, c'est humain, c'est juste aussi, parce que la question, de temps en temps, on essaye de ne pas tous les jours regarder les bulletins des morts, des trucs, mais après on les regarde. Donc il y a comme une sensation qu'on ne sait pas exactement comment vivre. Chaque matin, on essaye, on se réveille, on sort comme avant. Mais chaque matin, il y a beaucoup de choses à faire. Ne pas oublier le masque, mais entre autres, savoir combien de gens on peut frôler dans la rue, combien de gens on peut rencontrer, est-ce qu'on peut aller au cinéma, est-ce qu'on peut faire, on peut présenter en livre, est-ce que... Donc, c'est comme si on vivait en marchant sur les œufs, c'est-à-dire en ne sachant pas exactement. Et cette incertitude est surtout des adultes. Parce que la chose qui me frappe, c'est que les jeunes et les enfants ont une modalité différente. Ils essayent d'oublier, c'est comme pour la mort. Ils ont une sensation de dire non, mais oui, ok, on doit faire ça, mais ils en parlent pas énormément. Les adultes en parlent beaucoup plus.
Les enfants font tomber par terre leur masque et se le remettent de travers. Ils refusent de se désinfecter les mains 20 fois par jour. Ils regardent avec envie le petit frère libre de respirer qui dort tranquille dans le landau poussé par la maman masquée.
Oui, moi je pense que je définirais l'ambiance comme, c'est une chose qu'on connaît pas. Le virus, on sait pas. Et donc, on vit pour la première fois, peut-être notre génération, au moins sûrement, dans une ambiance, dans une atmosphère, justement, atmosphère et ambiance et virus, il y a une correspondance très, très forte, qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas tout à fait. Ça, c'est très nouveau pour les, surtout pour les Occidentaux, qui ont la sensation de tout connaître, de tout gérer, de tout contrôler. Je pense que c'est, et je le disais dans mon premier test, que ça, ce n'est pas mal en absolu. C'est-à-dire que il faut sentir aussi qu'il y a des choses qu'on contrôle pas tout à fait, qu'il y a des choses qui arrivent, qu'on essaye de comprendre. On vit avec une sensation qu'il faut ajuster notre vie par rapport, et Bégout a raison, par rapport au climat aussi, par rapport à ce qui arrive autour de nous, qui des fois n'est pas visible, mais qui arrive en même temps. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait garder même quand ce vaccin, que tout le monde espère, arrivera. Mm-hmm. C'est ça, on doit garder cette sensation, qui est une sensation volatile, mais aussi très importante.
Bruce Bégout, vous expliquez dans votre livre sur le concept d'ambiance qu'effectivement, il y a quelque chose entre la coexistence qui est en jeu dans la question de l'ambiance, entre l'ambiance individuelle, l'aura, et les ambiances communes, ce que vous appelez groupe ambiance, eh bien voilà, il y a un aller-retour entre nous et le dehors. Et là, on peut dire effectivement que vous avez écrit ce livre avant le début de la crise de la Covid, mais que d'une certaine façon, on perçoit exactement ce que vous voulez dire sur ce concept d'ambiance à partir de cet aller-retour entre le nous et le dehors.
Oui, c'est-à-dire que les ambiances ne sont pas simplement autour de nous, les groupes humains dans lesquels nous sommes sont aussi porteurs d'ambiance. On connaît tous au travail ou autre ces ambiances de groupe et le fait que, bien évidemment, nous ressentons des atmosphères parce que des personnes modifient ces atmosphères par leur comportement. D'ailleurs, de manière positive ou négative. Hein. Il peut y avoir des atmosphères de convivialité ou des atmosphères, au fond, d'hostilité rentrée, etc. Donc, bien évidemment, l'un des grands facteurs, je dirais, ambiantiels, hein, c'est aussi l'autre. Les autres, au fond, modifient les ambiances. Et bien évidemment, là, nous sommes... Alors, le confinement, on était un petit peu reclus chez soi, etc. Donc, c'était d'ailleurs une étrange ambiance de communiquer. Je me rappelle, au début, on voulait tous faire des apéros en visioconférence. Et puis, au bout de 2-3 jours, on en avait un peu ras-le-bol, etc. Donc, je voudrais revenir à ce que disait Madame Comencini sur l'incertitude. C'est tout à fait juste. Mais il faut savoir que tout le monde n'est pas capable de vivre avec cette incertitude. Ce que je veux dire par là, c'est que la psychiatrie nous a montré que, au fond, ce qui nous accompagne dans notre vie, c'est aussi une atmosphère de familiarité, de confiance dans le monde, dans l'autre, etc. Et que cette certitude atmosphérique est la base même de notre développement psychique et humain. C'est une sorte de, comme ça, Minkowski, qui était un psychiatre français, voilà, parlait d'un élan personnel et qui crée une ambiance. Et donc, nous baignons dans cette ambiance de certitude. Des événements comme ceux que nous connaissons, ce ne sont pas simplement des événements qui créent des ambiances négatives, ce sont des événements qui attaquent cette certitude atmosphérique qui nous entoure et qui peuvent conduire à des pathologies d'incertitude très graves. Et on parle d'une crise sanitaire, mais il me semble qu'il y a aussi, depuis 6 mois, aussi une crise grave du psychisme. Hein, parce que, justement, bon, ce qui est un peu attaqué par ce climat anxiogène, comme disait la maire d'Aix-en-Provence, c'est aussi, au fond, cette base atmosphérique qui nous sert quand même d'appui dans la vie. Et si on la perd, alors il y a des formes d'hébétude. Vous voyez par exemple ce que les psychiatres analysent, par exemple des formes de mélancolie ou de schizophrénie, sont souvent des pertes de cette confiance atmosphérique dans le monde, ce que Blankenburg, qui est un psychiatre, appelait la perte de l'évidence naturelle. Mais l'évidence naturelle, elle est souvent fondée sur cette ambiance... Ouais. De familiarité, etc. Et là, des événements de ce type-là, au fond, attaquent ce principe de certitude, on pourrait dire, un peu atmosphérique. Et donc, je dirais que tout le monde, l'incertitude, c'est bien quand nous-mêmes, on a un équilibre psychique et existentiel et fort, qu'on maîtrise. Mais pour beaucoup de gens, j'ai l'impression que cette incertitude les attaque aux racines même de leur être et produisent, au fond, des formes pathologiques de comportements qui peuvent aller soit de comportements excessifs, soit de comportements le plus souvent mélancoliques, dépressifs.
C'est d'ailleurs ce que disait Christina Comencini, un article récent de Libération dans lequel vous avez publié vos chers amis français il y a 6 mois de cela. Mais là, c'était le 19 septembre dernier, où Claire, 47 ans, 2 enfants, un mari, une maison près de Lille, dans le nord de la France, disait « Mon corps, ça va, c'est mon esprit le problème », ou encore Clémence, 36 ans, disait « L'ambiance est ultra morose », et une psychiatre expliquait que l'angoisse de l'attente d'annonces gouvernementales, par exemple, continuait de structurer la vie des Français qui se sentaient impuissants. Et ça doit être exactement la même chose en Italie. On attend des annonces, d'une certaine façon. On est un peu comme dans une sorte d'annonciation dont on ne saurait comment ni quand l'archange vient nous la donner.
Oui, en même temps, c'est un peu différent, je dois dire, là, parce que on a eu une grande épreuve avant le confinement, oui. Surtout le nord d'Italie l'a eu. C'est-à-dire, ça a été la guerre. C'était comme une guerre. C'était une chose énorme. Il y avait des morts partout. Et même à Rome, on a ressenti tout ça. C'est comme après la guerre. C'est-à-dire, on est préparé. On sait que cette vague allait venir. Et la sensation, c'est que les gens ne regardent pas tellement les bulletins, mais qu'ils sont, ils demandent beaucoup du vaccin anti-grippe, ils font beaucoup de choses comme préventives. Donc, je pense qu'il y a l'atmosphère, l'ambiance, disons, si on peut dire, entre la France et l'Italie. Donc, je viens d'arriver en Italie, j'étais en France, donc j'ai les deux cas devant, est assez différente. C'est-à-dire que ici, on a la sensation, oui, on sait. Il y a cette chose, c'est une chose très sérieuse, et pour que ça n'arrive pas comme avant, il faut faire des choses très sérieuses. J'ai senti qu'en France, il y avait un changement, parce qu'en effet, dans les rues, les gens portent beaucoup, presque tous, les masques. Mais quand même, il y a encore une sorte d'émerveillement. Comment on peut fermer un café à 10 heures? Nous, on est, comme je disais dans le premier article, on n'avait plus de café, on n'avait plus rien. Donc, disons, on voudrait avoir les cafés au moins, ouvert jusqu'à 10 heures. C'est le contraire. On se dit, Au moins que les cafés ne ferment pas jusqu'à 10 heures, on les a. Au moins qu'il y a quelques cinémas ouverts. Donc on a une sensation de dire, il faut pas que ça devienne pire que ça. Et en France, on a la sensation de dire, ne nous enlevez pas ça, c'est notre droit, on doit avoir ces choses-là. Donc c'est un peu
différent.
C'est un peu différent, oui.
Vous écoutez Le Temps du Débat, l'émission spéciale du vendredi, la conversation mondiale, et nous faisons dialoguer l'écrivain et philosophe Bruce Bégout, auteur du concept d'ambiance au seuil, avec l'écrivaine Christina Comencini, qui nous a confié un texte « Essayons de vivre dans la même atmosphère ». Le titre de cette émission, c'est « Le Covid a-t-il cassé l'ambiance ?»
France Culture.
A global conversation. The time of debate.
Bruce Bégout, il y a quelques articles qui, dans ce climat un peu morose, nous réjouissent parfois. Et avec Rémi Baille, qui a préparé cette émission, nous sommes tombés sur un article assez formidable sur ce qui s'est passé dans les start-up. Voilà, des start-up qui s'étaient dotées de happiness manager, des gens qui sont là pour mettre de l'ambiance façon californienne dans le lieu de l'entreprise. Et on entend certains de ces happiness managers dans cet article du Parisien dire, eh ben voilà, il faut revenir à du concret, du basique, un mode de management plus vertical, il faut assumer le retour du leader, et désormais, on ne va plus distribuer des smoothies à tous les salariés, mais on va leur dire que peut-être il faudrait travailler un peu plus et ne plus avoir une table de ping-pong dans le lieu de travail. Ça, c'est assez amusant, parce qu'effectivement, avoir imaginé qu'on pouvait créer une ambiance, celle de l'entreprise, et la faire changer avec des happiness managers, eh bien, c'est se retrouver confronté au mur du réel, d'une certaine façon, Bruce Bégout.
D'autant plus, enfin, il y a même ce qu'on appelle des ambianceurs, hein, enfin, des gens qui sont censés avoir cette capacité de créer des ambiances, plutôt des ambiances au sens, alors là, plus populaire, c'est-à-dire toujours ambiance conviviale, festive ou autre. La grande difficulté, c'est que, au fond, tout le monde crée des ambiances, c'est-à-dire que vous-même, vous aménagez votre salon, vous recevez des gens, vous mettez une musique un peu particulière, une lumière un peu particulière, etc. Donc, bien évidemment, nous sommes tous des créateurs d'ambiance. Vous choisissez votre lieu de vacances pour l'ambiance que vous supposez pouvoir vivre en choisissant ce lieu, etc. Et puis, évidemment, on pourrait dire l'organisation esthétique, politique, etc., même économique, hein, le marketing des magasins, tout ça sont des créations d'ambiance. Enfin, la grande difficulté, c'est que, me semble-t-il, pour avoir travaillé longtemps sur ce thème, c'est que les ambiances sont plutôt indisponibles. C'est-à-dire les ambiances, c'est plutôt quelque chose que l'on subit. À mon sens, il y a toujours un décalage entre l'ambiance que l'on ressent et celle qu'on voudrait créer. Et on exagère, à mon sens, notre croyance dans notre capacité de pouvoir créer des ambiances et de les contrôler. La preuve, c'est que l'ambiance de la pandémie, on a beau vouloir, en quelque sorte, trouver des moyens pour la contrôler, se rassurer par la science, par telle ou telle technique, il y a quelque chose qui nous dépasse et qui est précisément l'ambiance. C'est-à-dire l'ambiance, c'est toujours ce qui est indisponible autour de nous et dont on ne peut pas disposer à notre guise. Ouais. Donc je verrais
toujours un décalage. Parce qu'elle est co-créée, parce qu'on n'est pas les seuls à pouvoir la créer. C'est-à-dire qu'on peut toujours essayer de créer une ambiance pour avoir une réception à la maison ou un dîner agréable. Et puis, eh bien, il y a ceux qui viennent au dîner et puis ils cassent l'ambiance parfois. Donc c'est aussi la question. On n'est plus tout seul d'une certaine façon dès qu'il s'agit de créer une ambiance.
Oui, les ambiances, on pourrait dire, reprenant un terme que Kozelek attribue à l'histoire, on pourrait dire c'est un singulier collectif. Donc c'est singulier parce que toute ambiance est particulière, mais l'ambiance n'est jamais individuelle. Elle est toujours au fond collective puisqu'elle dépend des autres. On a déjà parlé de cet élément. Et donc bien évidemment, c'est très difficile soit de créer une... Alors on peut, au stade de son chez-soi, peut-être trouver les conditions de créer une ambiance de familiarité, d'aisance, de confort, etc. Mais bien évidemment, dès qu'on sort dans la rue, les ambiances nous échappent. Et je crois que ce qui est le plus intéressant dans l'ambiance, c'est justement quand elle nous échappe.
Oui, Christina Comencini, c'est vrai qu'il y a cette dimension qui est favorable d'ailleurs souvent à la nostalgie, c'est que l'ambiance que l'on connaît aujourd'hui, alors on la qualifie de lourde, de pourrie, de ce que l'on voudrait d'une certaine façon, ou au contraire de paisible quand on la vit bien, eh bien cette ambiance-là nous renvoie à celle que l'on a vécue auparavant. Et évidemment, en tant qu'écrivaine, vous ne pouvez pas ne pas être sensible justement à cette question, on évoquait tout à l'heure Proust, de cette nostalgie ou de ce rappel de ce qu'a été une ambiance chaude, chaleureuse, amicale, sympathique, etc., quand on subit des ambiances bien plus difficiles comme nous le vivons aujourd'hui.
Comme écrivaine, je ne suis pas très nostalgique.
Non.
Et je pense que, et je sens par exemple que Proust ne l'était pas du tout, c'est-à-dire que dans le sens que les noms, les atmosphères, les choses liées aux odeurs, aux goûts, tout ce qu'on sait, étaient une façon de recréer le présent, recréer une façon de comprendre le monde. Donc il y a une énergie de compréhension, un sentiment qui n'est pas seulement affectif, c'est très important évidemment, ça part de l'affectivité, mais ça rentre dans la connaissance, c'est-à-dire que le livre de Proust est un livre de connaissance. Je pense qu'il y a toujours un peu dans les écrivains, l'idée de connaître quelque chose qu'on ne connaît pas encore. Et à travers les mots, même à travers la réécriture du passé, le passé est fondamental pour les écrivains, pour les artistes en général, mais il y a toujours l'idée que ça intéresse le présent, que ça arrive maintenant. Et donc c'est vrai aussi que quand je pense au passé, je pense moi aussi qu'il y avait des termes qui nous conduisaient déjà là, parce qu'il y avait la globalisation, il y avait le climat, il y avait ce sentiment qui était global mais en même temps différent, aussi de nationalisme, non, toutes ces choses qu'on voit aussi maintenant autour du virus. Donc recréer le passé est pour quelqu'un qui écrit quelque chose qui recrée le présent, voilà. Donc c'est toujours une connaissance qu'on essaye de faire à travers une vision différente, soit du passé, que des ambiances, parce que, comme je disais avant, on essaye de prendre, de décrire, de redonner ces choses qui sont si volatiles, si éphémères, on vit dedans et on essaie de comprendre, elles sont déjà passées.
Oui, Bruce Bégou, sur ce point, puisque vous êtes aussi écrivain.
Moi aussi, je ne suis pas vraiment, un écrivain nostalgique, hein, et je ne pense pas que le rôle de la littérature soit de restituer le passé. De toute manière, ce serait impossible. On le voit même dans les projets d'autobiographie de l'enfance, etc. Enfin, donc l'idée, l'idée que l'on pourrait par l'écriture retrouver des ambiances du passé. Alors bien sûr, on peut les suggérer, et puis parfois même certains souvenirs pour nous sont porteurs d'une forte charge ambiantielle, hein, dans certains lieux où l'on a vécu dans l'enfance, etc. Mais François Hartog parlait de régime d'historicité, d'un présentisme, etc. Notre époque est quand même l'avenir est relativement incertain. Tous ceux qui essaient de faire des prédictions se trompent. Le passé, au fond, nous semble. Donc c'est vrai qu'on est un peu englué dans le présent. Mais c'est vrai qu'en tant qu'écrivain, d'ailleurs, je suis plutôt tourné vers le futur,
oui,
parce que ce que j'écris relève plutôt d'une littérature d'anticipation, etc. Donc
oui, et c'est vrai que ce présent qui dure, parce que c'était aussi peut-être cela qui nous touche, Christina Comencini. C'est que c'est la même histoire qui dure déjà depuis 6 mois, et 6 mois à l'aune de ce que nous imaginions être le temps avant le confinement et avant la crise de la Covid, eh bien c'est long. Et on se dit, et vous le disiez tout à l'heure, bah peut-être dans 6 mois, peut-être dans 1 an, peut-être dans 1 an et demi, nous aurons, et peut-être pas d'ailleurs, un vaccin qui nous permettra de réimaginer autrement notre vie. Mais c'est vrai que c'est cette longueur, ce présent permanent dans lequel nous nous sommes englués, comme le disait à l'instant Bruce Bégou.
Ben oui, c'est une durée maintenant. C'est plus quelque chose qui est arrivé et qui est passé, c'est une durée. Et en même temps, on ne s'habitue pas totalement. C'est-à-dire que la chose qu'on est en train d'expérimenter, c'est l'incertitude. Ce qui est vrai, en même temps, ça donne à des gens qui ont une fragilité, c'est un problème, ça donne des problèmes même pathologiques, parce que ça, on l'a vu. Mais en même temps, c'est un peu la façon dont on doit vivre. C'est d'être dans une incertitude. L'autre chose, c'est que on s'habitue pas, parce qu'il y a toujours un danger. Chacun de nous sait qu'il peut quelque part, même si on fait attention et tout ça, on fait tout, il y a quand même cette chose-là qu'on peut l'attraper. Et donc, on ne s'habitue pas à ça. On ne s'habitue pas au risque. C'est-à-dire au risque, oui, évidemment, mais en guerre, on risque tout, mais on ne s'habitue pas. On ne s'habitue pas à ça. Et on espère que c'est encore plus de l'incertitude de la vie. Comment faire, comment vivre, comment me lever, c'est un peu la peur, je trouve. On n'en a pas parlé, mais c'est dans l'ambiance de maintenant, il y a quand même une petite peur, même si les gens essayent de dire « mais non, il n'y a pas de problème » et tout ça. On sent que derrière, il y a quelque chose qui s'appelle la peur.
Et puis la certitude de se retrouver seul, des personnages comme ceux que vous aviez mis en scène dans votre roman Quatre Amours, qui vient de sortir à la Cosmopolite chez Stock, eh bien, ils sont libres et seuls, dites-vous, des individus libres et seuls. Et d'une certaine façon, eh bien, on est renvoyé à cette liberté contrainte, certes, aujourd'hui, et cette solitude, parfois.
Et dans l'ambiance du livre, si on veut parler, continuer à parler avec ce fil rouge qui est l'ambiance, il y a l'ambiance des séparés, des gens qui sont seuls, qui est une ambiance de notre temps. L'ambiance de la possible solitude, et même fréquente solitude, et comment faire. Et donc de gérer ça, de penser à ça, et de vivre en une condition qui n'était pas la règle avant, et qui devient de plus en plus la règle. Donc la sensation que les choses ne durent pas. Donc là aussi, incertitude. Donc l'incertitude n'est pas seulement du virus, elle est un peu de notre temps, je pense.
Comment ne pas tomber, Bruce Bégout, pour conclure avec ce dialogue avec Christina Comencini, dans cette idée qui était d'ailleurs dans un de ses articles sur le changement d'ambiance dans les start-up, un paradis perdu à jamais?
Ah, mais bon, c'est plutôt de l'ordre du mythologique, le paradis perdu. Alors bon,
on est
je ne pense pas que la vie que nous avions avant la pandémie était paradisiaque. Comme
Bien
je l'ai
sûr.
Dit, il y avait de nombreux problèmes qui se posaient à nous. Déjà, nous vivions, après on pourrait dire, l'insouciance des années 90 où, paraît-il, certains prédisaient la fin de l'histoire, etc. Différents événements, retour d'un terrorisme mondialisé, la question du réchauffement climatique, l'incertitude géopolitique avec l'élection de Trump, etc. Enfin, beaucoup d'éléments.
Vous voulez dire que laisser ce monde derrière nous, ça n'est pas une catastrophe de laisser ce monde-là derrière nous, forcément?
Oui, enfin, certains critiquent la notion d'espérance. Je crois qu'on ne peut pas vivre quand même sans une once d'espérance, hein. Et puisque bon, vous voyez, on va pas citer Dante, hein, puisqu'on parle avec, mais bon, on n'est pas obligé d'abandonner tout espoir non plus. On s'avance dans la vie et dans le monde, et donc il y a peut-être des motifs d'espérer, même dans cette pandémie. J'espère qu'elle nous a fait prendre conscience de beaucoup de problèmes, hein, liés au productivisme, à la pression humaine sur le climat, sur l'environnement, parce qu'au fond, cette crise pandémique est une crise aussi environnementale, bien évidemment. Et donc, qu'il y aura, que l'on tirera les leçons de cet épisode, et puis que, au fond, cette espérance d'un monde meilleur, à la fois du point de vue climatique et social, ne soit pas abandonnée, et qu'une atmosphère, au fond, plus joyeuse et confiante dans la capacité des hommes à améliorer leurs conditions de vie et aller vers un peu plus de justice sociale soit quand même présente et soit aussi virale, pour le coup, qu'il y ait une contagion de cette espérance.
Un dernier mot, Christina Comencini, sur cet espoir?
Oui, on l'espère beaucoup, moi je pense. Moi aussi, je suis du côté des optimistes. Peut-être on est des fous, mais alors c'est une folie qui est assez bénéfique, disons.
Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous, Bruce Bégout. Votre livre, c'est Le concept d'ambiance dans la collection L'ordre philosophique au seuil. Christina Comencini, c'est Quatre amours dans la collection La Cosmopolite chez Stock. Et puis, c'est aussi le texte que vous nous avez confié, qui a été traduit par Sophie-Catherine Gallet pour le site de France Culture à la page de la conversation mondiale. Je conseille à nos auditeurs d'aller y voir tout de suite. Il s'intitule Essayons de vivre dans la même atmosphère. Merci à tous les deux d'avoir réfléchi à cette question d'ambiance ensemble à distance, et c'était très bien. Merci encore. C'était le temps du débat. Chloé Cambrelin, Rémi Baille, Fanny Richer, Hugo Boursier et Imane Gilles. Aujourd'hui, avec nous à la technique, Clément Daté. À la réalisation, Alexandre Manzanares. Demain, rendez-vous à 18h10 pour le temps du débat du samedi, car désormais le temps du débat est également le samedi, et présenté par Raphaël Bourgois. Dans 3 minutes, vous retrouverez Arnaud Laporte pour Affaires culturelles, avec ce soir le metteur en scène Milo Rao.